Je vais vous lire « Tistou les pouces verts » 2. Où le souci pèse sur la maison qui brille et où l'on décide pour Tistou d'un nouveau système d'éducation. Le souci est une idée triste qui presse la tête au réveil et y reste accrochée toute la journée. Le souci se sert de n'importe quoi pour entrer dans les chambres. Il se faufile entre les feuilles avec le vent, il se met à cheval sur la voie des oiseaux, il court le long des fils des sonnettes. Ce matin-là, à mirepoil, le souci s'appelait « pas comme tout le monde ». Le soleil ne se décidait pas à se lever. « C'est bien ennuyeux de devoir réveiller ce pauvre Tistou », se disait-il. « Dès qu'il aura les yeux ouverts, il se rappellera qu'il a été chassé de l'école. » Le soleil mit une sourdine à sa dynamo et jeta des petits rayons de rien du tout, empaquetés de brume. Le ciel resta gris au-dessus de mirepoil. Mais le souci a plus d'un tour dans son sac. Il s'arrange toujours pour se faire remarquer. Il se glissa dans la grosse sirène de l'usine. Et chacun dans la maison entendit cette grosse sirène crier. « Pas comme tout le monde ! Tistou n'est pas comme tout le monde !» Ainsi le souci pénétra dans la chambre de Tistou. « Que va-t-il m'arriver ? » se demanda celui-ci. Et il renfonça la tête dans l'oreiller. Mais il ne put pas se rendormir. C'était désespérant, avouez-le, de si bien dormir en classe et si mal dans son lit. Madame Amélie, la cuisinière, grommelait toute seule en allumant ses fourneaux. « Pas comme tout le monde, notre Tistou. Et qu'est-ce qui me le prouve ? Il a deux bras, deux jambes, alors ?» Le valet Carolus, tout en astiquant la rampe de l'escalier d'un mouvement rageur, répétait. « Pas comme tout le monde, Tisti, qu'on vient de me le dire, ami. » Carolus, nous tenons à le préciser, avait un léger accent étranger. À l'écurie, les jockeys se chuchotaient. « Pas comme tout le monde, un enfant si gentil. Vous y croyez, vous ?» Et comme les chevaux partagent les soucis des hommes, les pur-sang groseilles eux-mêmes paraissaient nerveux, frappaient leurs bas-flancs, tiraient sur leurs longes. Trois crins blancs avaient poussé brusquement au front de belles juments. Seul le poney gymnastique demeurait étranger à cette agitation et mangeait son foin d'un air tranquille, en découvrant ses belles dents blanches terminées par un petit as de trèfle. Mis à part ce poney qui jouait l'indifférent, chacun se demandait, en vérité, ce qu'on allait faire de Tistou. Et ceux qui se posaient la question avec le plus inquiétude étaient forcément ses parents. Devant sa glace, M. Père se faisait briller la tête, mais sans joie et par habitude. « Voilà un enfant, réfléchissait-il, qui semble plus difficile à élever qu'un canon. » Rose sur ses oreillers roses, Madame Mère laissa glisser une larme dans son café au lait. « S'il s'endort en classe, comment l'instruire ? » demanda-t-elle à M. Père. « La distraction n'est peut-être pas une maladie incurable, » répondit celui-ci. « La rêverie, en tout cas, est moins dangereuse que la bronchite, » reprit Madame Mère. « Il faut tout de même que Tistou devienne un homme, » dit M. Père. Après cet échange de fortes paroles, ils se turent un moment. « Que faire ? Que faire ? » pensaient-ils chacun de leur côté. M. Père était un homme aux décisions rapides et énergiques. Diriger une usine de canons vous trempe l'âme. D'autre part, il aimait beaucoup son fils. « C'est très simple, j'ai trouvé, » déclara-t-il. « Tistou n'apprend rien à l'école. Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Ce sont les livres qui l'endorment. Supprimons les livres. Nous allons essayer sur lui un nouveau système d'éducation, puisqu'il n'est pas comme tout le monde. Il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. On lui enseignera sur place à connaître les cailloux, le jardin, les champs. On lui expliquera comment fonctionne la ville, l'usine et tout ce qui pourra l'aider à devenir une grande personne. La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit. On verra bien le résultat. » Madame Mère, avec enthousiasme, approuva la décision de Monsieur Père. Elle regretta presque de n'avoir pas d'autres enfants auxquels appliquer ce séduisant système éducatif. Pour Tistou, c'en était fini des tartines avalées en hâte, du cartable à traîner, du pupitre où la tête tombe toute seule et des zéros par poignée dans la poche. Une nouvelle vie allait commencer, et le soleil se remit à briller. Où Tistou prend une leçon de jardin et découvre du même coup qu'il a les pouces verts. Tistou mit son chapeau de paille pour aller prendre sa leçon de jardin. Monsieur Père avait jugé logique de commencer par là l'expérience du nouveau système d'éducation. Une leçon de jardin, c'était au fond une leçon de terre, la terre sur laquelle nous marchons, qui produit les légumes que nous mangeons, les herbes dont on nourrit les animaux, jusqu'à ce qu'ils soient assez gros pour être mangés. La terre, avait déclaré Monsieur Père, est à l'origine de tout. Pourvu que le sommeil ne me reprenne pas, se disait Tistou en se rendant à sa leçon. Dans la serre, le jardinier moustache, prévenu par Monsieur Père, attendait son élève. Le jardinier moustache était un vieil homme solitaire, peu bavard, pas toujours aimable. Une extraordinaire forêt couleur de neige lui poussait sous les narines. La moustache de moustache, comment vous la décrire ? Une véritable merveille de la nature. Les jours de bise, lorsque le jardinier s'en allait la perle sur l'épaule, c'était superbe à voir. On aurait dit deux flammes blanches qui lui sortaient du nez et lui battaient les oreilles. Tistou aimait bien le vieux jardinier, mais il avait un peu peur. « Bonjour, monsieur Moustache, » dit Tistou en soulevant son chapeau. « Ah, te voilà, » répondit le jardinier. « Eh bien, on va voir de quoi tu es capable. Voici un terreau et voici des pots à fleurs. Tu vas remplir les pots avec du terreau. » Enfoncer ton pouce au milieu pour faire un trou et ranger les pots en ligne le long du mur. Après, nous mettrons dans les trous les graines qui conviennent. Les serres de Monsieur Père étaient admirables et dignes en tout point du reste de la maison. Sous l'abri de vitres étincelantes, on entretenait, grâce à un gros calorifère, une atmosphère humide et chaude. Les mimosas y fleurissaient en plein hiver. Il y poussait des palmiers importés d'Afrique. On y cultivait des lys pour leur beauté, des tubéreuses et des jasmins pour leur parfum. Et même des orchidées qui ne sont pas belles et qui ne sentent rien pour une qualité tout à fait inutile à une fleur et qui s'appelle la rareté. Moustache était le seul maître dans cette partie du domaine. Quand Madame Mère faisait visiter les serres à ses amis du dimanche, le jardinier habillé d'un tablier neuf s'installait sur la porte, aimable et causant comme une pioche. À la moindre tentative de la part d'une de ces dames de toucher aux fleurs ou seulement d'en respirer le parfum, Moustache bondissait sur l'imprudente et lui disait « Non mais vous voulez peut-être me les tuer, me les étrangler, me les suffoquer ?» Tistou, en accomplissant la tâche que Moustache lui avait donnée, eut une bonne surprise. Ce travail ne l'endormait pas. Au contraire, il y prenait plaisir. Il trouvait que le terreau avait une bonne odeur. Un pot vide, une pelletée, un trou avec le pouce et le tour était joué. On passait au suivant. Les pots s'alignaient le long du mur. Pendant que Tistou continuait avec beaucoup d'application, Moustache faisait lentement le tour du jardin. Et Tistou découvrit ce jour-là pourquoi le vieux jardinier parlait si peu aux gens. C'est qu'il parlait aux fleurs. Vous comprenez aisément que tourner le compliment à chaque rose d'un massif, à chaque œillet d'un buisson, ne laisse guère de voix le soir venu pour lancer des « bonne nuit, monsieur » ou « bon appétit, madame » ou encore des « à vos souhaits » lorsqu'on éternue devant vous. Toutes choses qui font dire de quelqu'un « comme il est poli ». Moustache allait d'une fleur à l'autre, s'inquiétait de la santé de chacune. Alors la rose thé, toujours gamine, on joue à garder des boutons en réserve pour les faire éclater quand personne ne s'y attend. Et toi, le volubilis, tu te prends pour le roi de la montagne à vouloir t'échapper vers le haut de mes châssis? En voilà des façons. Puis il se tourna vers Tistou et lui cria de loin. « Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ?»« Ne vous inquiétez pas, professeur, je n'ai plus que trois pots à remplir, » répondit Tistou. Il se hâta de terminer et alla rejoindre Moustache à l'autre bout du jardin. « Voilà, j'ai fini. »« Bon, nous allons voir ça, » fit le jardinier. Ils revinrent lentement parce que Moustache en profitait. Ici, pour féliciter une grosse pivoine de sa bonne mine, là, pour encourager un hortensia à devenir bleu. Soudain, ils s'immobilisèrent. Ébahis, bouleversés, stupéfaits. « Voyons, voyons, je ne rêve pas, » dit Moustache en se frottant les yeux. « Tu vois bien la même chose que moi ?»« Mais oui, monsieur Moustache. » Le long des murs, là, à quelques pas, tous les pots remplis par Tistou avaient fleuri en 5 minutes. Entendons-nous bien, il ne s'agissait pas d'une floraison timide, de quelques pousses hésitantes et pâles. Non. Dans chaque pot s'épanouissaient de superbes bégonias, et tous ces bégonias alignés formaient un épais buisson rouge. « Ce n'est pas croyable, » disait Moustache. « Il faut au moins 2 mois pour faire des bégonias comme ceci. » Un prodige est un prodige. On commence par le constater, ensuite on essaye de l'expliquer. Tistou demanda. « Mais puisqu'on n'y avait pas mis de graines, monsieur Moustache, d'où viennent ces fleurs ?»« Mystère, mystère, » répondit Moustache. Puis, brusquement, il prit entre ses mains rugueuses les petites mains de Tistou en disant « Montre-moi donc tes pouces. » Il examina attentivement les doigts de son élève, au-dessus, au-dessous, dans l'ombre et dans la lumière. « Mon garçon, » dit-il enfin après mûre réflexion, « il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire, tu as les pouces verts. »« Verts !» s'écria Tistou fort étonné. « Moi, je les vois roses et même plutôt sales pour le moment, ils ne sont pas verts. » « bien sûr, tu ne peux pas le voir, » répondit Moustache. « Un pouce vert est invisible. Cela se passe sous la peau. C'est ce qu'on appelle un talent caché. Seul un spécialiste peut le découvrir. Or, je suis spécialiste et je te l'affirme, que tu as les pouces verts. »« À quoi ça sert, les pouces verts ?»« Ah, c'est une qualité merveilleuse, » répondit le jardinier. « Un vrai don du ciel. Vois-tu, il y a des graines partout. Non, seulement dans les maisons. Il y en a sur les toits des maisons, sur les rebords des fenêtres, sur les trottoirs, sur les palissades. » Sur les murs, des milliards de graines qui ne servent à rien. Elles sont là, elles attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Souvent, elles meurent, prises entre deux pierres sans avoir pu changer en fleurs. Mais si un pouce vert se pose sur une de ces graines, où qu'elle soit, la fleur pousse instantanément. Du reste, tu en as la preuve devant toi. Tes pouces ont découvert dans la terre des graines de bégonia. Tu vois le résultat? Crois-moi, je t'envie. Ça m'aurait été bien utile dans mon métier d'avoir les pouces verts. Tistou ne parut pas enchanté de la révélation. On va encore dire que je ne suis pas comme tout le monde, murmura-t-il. Le mieux, répliqua Moustache, c'est de n'en parler à personne. À quoi bon éveiller la curiosité ou la jalousie? Les talents cachés risquent toujours de nous attirer des ennuis. Tu as les pouces verts, c'est entendu, et bien garde-le pour toi, que cela reste un secret entre nous. Sur le carnet de notes remis par Monsieur Père et que Tistou devait faire signer à la fin de chaque leçon, le jardinier Moustache écrivit simplement « Ce garçon présente de bonnes dispositions pour le jardinage. » Où l'on confie Tistou à Monsieur Tournadis qui lui donne une leçon d'ordre. Sans doute le tempérament explosif de Monsieur Tournadis lui venait-il d'une longue fréquentation des canons. Monsieur Tournadis était l'homme de confiance de Monsieur Père. Monsieur Tournadis surveillait les nombreux employés de l'usine et les comptait chaque matin pour s'assurer qu'il n'en manquait aucun. Il regardait l'intérieur des canons pour voir s'ils étaient bien droits. Il vérifiait le soir la fermeture des portes et souvent travaillait tard dans la nuit afin de contrôler l'alignement des chiffres dans les grands livres de comptes. Monsieur Tronadis était un homme d'ordre. Aussi, Monsieur Père avait-il pensé à lui pour poursuivre, dès le lendemain, l'éducation de Tistou. « Aujourd'hui, leçon de ville, leçon d'ordre !» cria Monsieur Tronadis debout dans le vestibule, comme s'il s'était adressé à un régime. Il convient de préciser que Monsieur Tronadis avait été dans l'armée avant d'être dans les canons. S'il n'avait pas inventé la poudre, au moins il savait s'en servir. Tistou se laissa glisser le long de la rampe. « Veuillez remonter, lui dit Monsieur Tronadis, et descendre par les marches. » Tistou obéit, bien qu'il lui semblât inutile de remonter pour redescendre, puisqu'il était déjà en bas. « Que portez-vous sur la tête ? » demanda Monsieur Tronadis. « Une casquette à carreaux. Alors mettez-la droite. » N'allez pas croire que Monsieur Tronadis était un méchant homme. Il avait seulement les oreilles très rouges, et pour un oui ou pour non, ou un non, aimait se fâcher. « J'aurais préféré continuer mon éducation avec Moustache, se disait Tistou. » Et il se mit en route à côté de Monsieur Tronadis. Une ville, commença Monsieur Tronadis, qui avait bien préparé la leçon, se compose, comme vous pouvez le voir, de rues, de monuments, de maisons, et de gens qui habitent dans ces maisons. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville? Le jardin des plantes, répondit Tistou. Non, répliqua Monsieur Tronadis. Le plus important dans une ville, c'est l'ordre. Nous allons donc visiter d'abord les monuments où l'on maintient l'ordre. Sans ordre, une ville, un pays, une société ne sont que du vent et ne peuvent durer. L'ordre est une chose indispensable, et pour conserver l'ordre, il faut punir le désordre. Certainement, Monsieur Tronadis doit avoir raison, pensa Tistou. Pourquoi crie-t-il si fort? Voilà une grande personne qui a une voix de trompette. Pourquoi faut-il faire tant de bruit à cause de l'ordre? Dans les rues de Mirepoix, les passants se retournaient sur eux et Tistou en était gêné. « Tistou, ne vous laissez pas distraire. Qu'est-ce que l'ordre ?» demanda M. Tronadis d'un ton sévère. « L'ordre, c'est quand on est content, » dit Tistou. M. Tronadis, ses oreilles deviennent plus rouges qu'elles n'en étaient d'habitude. « J'ai remarqué, » continua Tistou sans se laisser intimider, « que mon poney gymnastique, par exemple, lorsqu'il est bien bouchonné, bien peigné, qu'il a la crinière tressée de papier d'argent, est plus content que lorsqu'il est couvert de crottes. Et je sais aussi... que le jardinier Moustache fait des sourires aux arbres lorsqu'ils sont bien taillés. Ce n'est pas de l'ordre, ça ? Cette réponse ne parut guère satisfaire M. Tronadis, dont les oreilles devinrent encore plus rouges. « Et que fait-on des gens qui sèment le désordre ? » demanda-t-il. « Ils doivent être punis, sûrement, » répondit Tistou, qui pensa que semer le désordre, c'était un peu comme semer ses pantoufles dans sa chambre ou semer ses jouets dans le jardin. « On les met en prison, ici, » déclara M. Tronadis en montrant à Tistou, d'un grand geste, un immense mur, tout gris, sans une fenêtre. Un mur qui n'était pas normal. « C'est ça, la prison ?» dit Tistou. « C'est cela, » dit Monsieur Tronadis. « C'est le monument qui sert à maintenir l'ordre. » Ils longèrent le mur et parvinrent devant une haute grille noire, hérissée de pointes piquantes. Derrière la grille noire, on voyait d'autres grilles noires, et derrière le mur triste, d'autres murs tristes. Tous les murs, toutes les grilles étaient également surmontées de piquants. « Pourquoi le maçon a-t-il mis ces vilains piquants partout ?» demanda Tistou. À quoi cela sert-il? À empêcher les prisonniers de s'évader. Si cette prison était moins laide, dit Tistou, ils auraient peut-être moins envie de s'en aller. Les joues de M. Tronadis devinrent aussi rouges que ses oreilles. Étrange enfant, pensa-t-il, toute son éducation est à faire. Et à haute voix, il ajouta. « Tu devrais savoir qu'un prisonnier est un homme méchant. On le met donc là pour le guérir de sa méchanceté, dit Tistou. On le met là pour l'empêcher de nuire aux autres hommes. Il guérirait sûrement plus vite si l'endroit était moins laid, dit encore Tistou. Ah, il est têtu, pensa M. Trunadis. Tistou aperçut derrière les grilles des prisonniers qui marchaient en rond, tête basse, sans prononcer un mot. Ils paraissaient affreusement malheureux avec leurs crânes rasés, leurs vêtements rayés et leurs grosses chaussures. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont en récréation, dit M. Trunadis. Bien vrai, pensa Tistou, si c'est ça leur récréation, comme doivent être leurs heures de classe, vraiment cette prison était trop triste. Il avait envie de pleurer. Il ne prononça pas un mot pendant tout le chemin du retour. M. Trunadis interpréta ce silence comme un bon signe et pensa que la leçon d'ordre avait porté ses fruits. Néanmoins, il écrivit sur le carnet de notes de Tistou. Cet enfant-là est à surveiller de près, il se pose trop de questions.